France Inter.
Voici le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Le coût des catastrophes météo de l'été, 43 milliards d'euros de pertes. En Europe, 10 milliards rien qu'en France. Le détail, dans un instant, il faut maintenant payer l'après. Dans l'Aude, certaines communes coupées du monde depuis l'incendie vont être équipées de téléphones par satellite. À suivre encore le fiasco du Tour d'Espagne cycliste. La course empêchée d'aller à son terme hier par les manifestants pro-palestiniens. Le Premier ministre Pedro Sanchez demande maintenant qu'Israël ne participe plus à aucune compétition internationale tant que la barbarie continuera. Fin de citation. Vive réaction à Jérusalem. Nous serons en direct de Madrid dans quelques instants. Nous parlerons également de ces incendies en série en Gironde hier le long de la voie ferrée Toulouse-Bordeaux. Incendie volontaire selon les enquêteurs. De ces communes qui aident les commerces à s'installer dans les centres-villes. Nous serons à Saint-Jean-d'Angély, Charente-Maritime. Et puis de l'exploit sportif du week-end, le français Jimmy Gressier, champion du monde du 10 000 mètres. Et qui remercie la lutte antidopage. À partir de 13h30, ces ingérences étrangères qui sèment la pagaille en France, ces têtes de cochon déposées la semaine dernière devant des mosquées par exemple, mais bien d'autres encore sur les réseaux sociaux notamment. Que cachent-elles? Quels sont les pays qui tentent de nous déstabiliser? 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h45, notre feuilleton, une semaine sur les traces d'Ousmane Dembélé, candidat au Ballon d'Or lundi prochain.
Là, au dernier étage, c'est ici que Ousmane il habitait. Et moi, j'habitais au premier étage. Nous, on jouait au football. Et lui, il faisait de la magie.
Retour chez lui à Évreux, 13h50, c'est la France. À Besançon, Cécilia Arbona nous fait découvrir le concours international de chef d'orchestre. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson. Bernard Campan demande le rock de Ten CC à Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Espagne, France, Italie, ce sont les trois pays qui ont perdu le plus d'argent cet été en raison des catastrophes naturelles. Chaleur, sécheresse, incendie. L'étude menée par des économistes allemands mesure les pertes sur la production de nos économies à court et à moyen terme. Bonjour Célia Kiré.
Bonjour Jérôme.
Et elle nous explique que la facture va continuer de grimper.
Oui, la facture est déjà de 43 milliards d'euros pour l'Europe, dont 10 milliards pour la France, pour un seul été. Pour vous donner un élément de comparaison, 40 milliards, c'est le montant du plan Bayrou pour réduire la dette en France. Cette étude de l'université de Mannheim, avec deux auteurs de la Banque Centrale Européenne, donne le vertige. Les pertes de récoltes dans l'agriculture à cause des sécheresses, la destruction de routes, d'immeubles à cause des inondations, les usines qui tournent moins en raison de ces canicules, tout cela a un coût et en effet ce n'est que le début. Cette étude a été réalisée très vite après l'été, mais il faudra ajouter des impacts à plus long terme. Si des produits viennent à manquer à cause de la sécheresse, blé ou maïs, cela aura un effet sur les prix. D'ici à 2029, les coûts liés aux catastrophes de cette été 2025 pourrait atteindre 126 milliards d'euros. C'est là où c'est exponentiel. Selon les auteurs, ces chiffres sont sans doute sous-estimés car ils ne tiennent pas compte des incendies ni des décès. Or, selon les méthodes de calcul, les résultats peuvent être différents. Vendredi, l'INSEE estimait que les canicules n'auraient pas d'impact immédiat en France, mais l'Institut français n'exclut pas des effets à plus long terme sur le PIB.
Merci Célia Kiré. Et ces études ne prennent pas en compte l'argent qu'il faut dépenser, engager maintenant pour panser les plaies. Allons par exemple dans le département de l'Aude après l'incendie des Corbières qui a ravagé 17 000 hectares début août. Le département et la région Occitanie vont débloquer 20 millions d'euros sur deux ans à la fois pour l'urgence, mais aussi pour l'avenir, Thomas Pinaroli.
Oui, l'objectif de ce plan est double, en fait. Apporter des réponses aux sinistrés de l'été, au-delà des mesures d'urgence des dernières semaines, et surtout préparer le territoire aux défis climatiques des prochaines années. Ça passe d'abord par l'installation de téléphones satellitaires pour éviter que certaines communes ne se retrouvent sans aucun moyen de communication, coupées du monde, comme ça a été le cas cet été pendant l'incendie. Pour le reste, ce plan prévoit des adaptations de fond, sécuriser la ressource en eau en créant des retenues, en amplifiant la réutilisation des eaux usées en agriculture, repenser les forêts en plantant des variétés d'arbres beaucoup plus résistantes au feu, et relancer la production agricole sur les terrains en friche. On sait que ces zones abandonnées ont accéléré les flammes cet été. Enfin, une campagne publicitaire va être lancée pour inciter les touristes à revenir dans le département, car l'objectif est bien là, que l'Aude continue à vivre, malgré le risque.
Précision, ici héros, comme dans l'Aude au mois d'août, c'est la piste d'incendie volontaire qui est privilégiée en Gironde après le départ de 4 incendies de câbles hier matin le long des voies de la ligne SNCF Bordeaux-Toulouse. Le trafic est resté perturbé toute la journée d'hier. Il n'a repris normalement que ce matin. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour Jérôme.
Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé ?
Alors, 4 incendies simultanés sur la même ligne dans 3 communes éloignées de plusieurs kilomètres. 2 incendies dans la commune de Cadojac à 5 km de Bordeaux le long de la voie ferroviaire. Un autre à Villeneuve-d'Ornon, là aussi stratégique à la gare de triage de Bordeaux-Orcade, puis un dernier, 10 km plus loin, à Aigues-Mortes-les-Graves, toujours sur cette même ligne qui descend vers le sud et relie Bordeaux à Toulouse, en passant par Agen. Si les pompiers ont rapidement maîtrisé ces 4 incendies, déclarés donc dimanche vers 8h30 du matin, ce sont des lignes de signalisation du trafic ferroviaire qui ont donc été détruites et bloquent la circulation. Une cinquantaine d'agents de la SNCF sont alors mobilisés pour rétablir ces câbles, des agents qui soulignent avoir constaté de très nombreux dérangements sur des points névralgiques des systèmes de signalisation.
Merci Laurent Kramer. Autre ligne SNCF perturbée hier, Besançon-Dijon, après un vol de câbles, 8 à 10 trains ont dû être supprimés. Perturbation encore et annoncée, celle-là, celle de jeudi, à l'occasion de la journée d'action intersyndicale contre le projet de budget. Elle devrait être importante, ces perturbations à l'école et dans les transports publics. Et parmi les syndicats en première ligne, il y a la CGT. Sa secrétaire générale, Sophie Binet, était reçue il y a quelques minutes à Matignon par le nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu. Elle a posé ses priorités.
J'ai dit au Premier ministre que s'il ne voulait pas rejoindre le cimetière des premiers ministres qui déborde déjà, il fallait qu'il affiche et qu'il prenne des actes de rupture forts et immédiat. Et la première rupture, c'est l'abrogation de la réforme des retraites, cette blessure démocratique et sociale qui ne passe pas et qui est à l'origine de la situation d'instabilité politique actuelle. Il faut abroger cette réforme. Je lui ai dit qu'il fallait aussi évidemment enterrer le musée des horreurs du budget Bayrou, qu'il fallait débloquer des moyens conséquents pour nos services publics, notamment les hôpitaux et les écoles, qu'il fallait augmenter les salaires et les pensions et prendre des mesures pour protéger notre industrie et mettre fin au licenciement.
Sophie Binet de la CGT à sa sortie de son entretien avec Sébastien Lecornu il y a quelques minutes et au micro de Maxime Debs. Le Premier ministre, sous la pression des syndicats donc, et des partis politiques avec lesquels il doit négocier pour ne pas être censuré au moment de présenter son projet de budget pour 2026. Alors depuis sa nomination, il multiplie les signes d'ouverture à gauche. Il a invité les représentants du Parti Socialiste à le rencontrer mercredi et cela suscite la méfiance de la droite et du parti Les Républicains. Bonjour Marie Mollet.
Bonjour.
Un parti qui fait mine de poser des conditions.
Oui, la participation de LR au gouvernement Lecornu ne sera pas automatique, a dit en clair Bruno Retailleau hier. Depuis l'Alsace, il a posé ses limites, c'est son mot. Respect de l'intérêt supérieur de la nation, dit-il, et de nos convictions. Lutte contre l'immigration, refus de la taxe Zucman réclamée par la gauche. Mais Bruno Retailleau ne prend pas beaucoup de risques. L'exécutif ne veut pas de la taxe Zucman. Le PS n'a aucune intention de participer au gouvernement. Un observateur LR résume, Bruno Retailleau est dans l'affichage, le pas de danse. À la fin, il pourra siéger dans un gouvernement qui aura fait des concessions à la gauche, mais pas celle que lui aura mise en avant. Car en effet, le patron des LR ne veut pas quitter Beauvau, c'est trop tôt dans sa course à la présidentielle. Même chose pour les autres ministres de droite. En 9 mois, ils ont eu le temps d'y prendre goût, tacle l'un de leurs collègues du camp présidentiel. En réalité, les ministres LR ont été soulagés par la nomination de Sébastien Lecornu, plutôt que celle d'un profil plus PS compatible. Lui, un homme venu de la droite qui parle au RN, un des traîtres de 2017 rallié à Emmanuel Macron, mais depuis du temps a passé. Au lendemain de sa nomination, un ministre LR célébrait son arrivée. Lecornu, ce sera toujours mieux que François Bayrou.
Marie Mollet, LR, qui voudrait entendre davantage le nouveau Premier ministre sur les questions d'immigration. Eh bien, le patron des députés Les Républicains, Laurent Wauquiez, dit avoir signé la pétition lancée en ligne par l'ex-député député européen Philippe de Villiers, pétition qui exige un référendum sur l'immigration. Avec en toile de fond pour tous ces débats, une échéance électorale. Ce sont les élections municipales. Le premier tour aura lieu dans 6 mois très exactement. Ce sera le 15 mars. Et dans beaucoup de communes, le débat va tourner autour de l'état des centres-villes, souvent désertés par les magasins. Ainsi, à Saint-Jean-d'Angély, en Charente-Maritime, la municipalité subventionne depuis quelques années à hauteur de plusieurs milliers d'euros les commerçants qui s'installent dans le centre-ville. Dernière en date, une laverie et un magasin de décoration d'intérieur. Sur place, Hugo Marceau.
Au 21 rue de l'Hôtel de Ville, Elsa et sa mère Véronique ont leurs nouvelles habitudes. L'une et l'autre sont agenouillées devant une machine pour faire glisser du linge propre dans leur panier.
J'avais une machine, c'est que j'ai déménagé en fait, et du coup on se retrouve avec une machine de 5 kg à 6. Donc c'est un peu compliqué de laver du linge, surtout quand il y a 2 enfants. Donc du coup ouais, ça aide pas mal.
Elsa paye 5 euros par machine de 9 kg dans cette laverie au décor soigné, ouverte en juillet dernier par Laurent Brand et sa femme. Le couple tenait déjà une laverie dans l'heure avant d'arriver à Saint-Jean-d'Angély il y a 1 an et demi.
Et on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de laverie de centre-ville à Saint-Jean-d'Angély. Donc comme c'est un créneau dans lequel nous étions déjà investis, on a été voir la mairie, ils nous ont accueillis très favorablement.
Après examen de son dossier par un jury composé d'élus, d'experts comptables et de banquiers, le commerçant a touché 3000 euros. De quoi financer quelques aménagements et boucher les trous avant de devenir rentable, il l'espère, d'ici 10 mois.
Moi, j'ai eu à m'implanter dans différentes villes de France et j'ai rarement été accueilli comme on l'est ici.
Depuis 2019, la ville a investi 79 000 euros pour 36 nouveaux commerces ouverts ou repris dans son centre-ville. Aujourd'hui, 32 sont toujours en activité.
On a un centre-ville qui commence à être très animé.
Françoise Ménard, la maire de Saint-Jean-d'Angély.
Et avec les travaux que l'on vient de faire autour de la place du marché, de la rue de l'Hôtel de Ville, on sent qu'il y a vraiment une augmentation de la clientèle qui passe dans le centre-ville.
Riverains et travailleurs interrogés ne sont pas tous d'accord pour parler d'un regain de dynamisme dans ce centre-ville. Mais les commerçants, eux, semblent y trouver leur bonheur. Sur les 5 dernières années, la proportion de boutiques vacantes est passée de 35% à 18%.
Reportage ici, La Rochelle. Cet accident de bus ce matin à Cahors, dans le Lot. 17 personnes ont été légèrement blessées. C'est un véhicule du réseau de transport de l'agglomération qui s'est renversé. Il a percuté un arbre. Il transportait principalement des collégiens, des lycéens. Certains blessés souffrent de fracture. Une cellule psychologique a été ouverte par la mairie de Cahors. Et puis, on a le bilan de la sécurité routière pour le mois d'août 2025. Bilan catastrophique. Le mois d'août 2025 a été le plus meurtrier, nous dit la sécurité routière, depuis 2011.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Qui a gagné le Tour d'Espagne cycliste hier? Si l'on en croit le palmarès de cette Vuelta, c'est bien le Danois Jonas Vingegaard. Mais pour les manifestants qui se sont mobilisés hier dans les rues de Madrid, la Palestine est la grande gagnante. Mobilisation pour empêcher l'une des courses cyclistes les plus relevées au monde d'arriver à son terme et protester une nouvelle fois contre la présence dans l'épreuve de l'équipe cycliste Israël Premier Tech. Tout cela avec succès puisque la dernière étape hier n'a pu aller à son terme et que les coureurs ont dû se contenter de recevoir leur récompense sur un parking d'hôtel. Tout cela avec l'assentiment du Premier ministre socialiste espagnol Pedro Sanchez, qui va même plus loin ce matin, et on va y venir dans un instant avec notre correspondante sur place, Marie-Hélène Ballestero. Avant cela, écoutons la réaction ce matin également du directeur du Tour d'Espagne, Javier Guillén, condamne ce qui s'est passé hier.
Quiero es, por supuesto, lamentar.
Je veux ici exprimer des regrets, mais aussi condamner ces événements. Les images parlent d'elles-mêmes et elles sont inacceptables. Rien de bon ne peut sortir de ce genre d'action. Il n'y a aucun problème à ce que tout le monde puisse se servir de la visibilité du Tour d'Espagne pour faire entendre des revendications. Mais de la même manière que nous respectons le droit à manifester, nous exigeons que notre course et nos sportifs soient respectés. Les manifestations et la course auraient très bien pu cohabiter.
Las manifestaciones con la práctica del deporte.
Javier Guillén, le directeur du Tour d'Espagne. J'ajoute une réaction d'un coureur, le vainqueur Jonas Vingegaard. On a très peu entendu les coureurs ces dernières heures. Que nous dit le Danois? Tout le monde a le droit de manifester, mais pas d'une manière qui influe ou mette en péril notre course. Fin de citation. Bonjour Marie-Hélène Ballestero.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Madrid. Le Premier ministre espagnol va même plus loin ce matin. Il demande qu'Israël soit banni jusqu'à nouvel ordre de toute compétition internationale.
Oui, c'est bien ça. Le chef du gouvernement central, Pedro Sanchez, a redit aujourd'hui sa profonde admiration pour la société civile espagnole qui se mobilise contre l'injustice. Et il a donc estimé qu'Israël ne devrait participer à aucune compétition internationale tant que la barbarie continue à Gaza. Hier matin, il avait déjà fait part de son admiration pour ces manifestations pro-palestiniennes avant le début de la dernière étape de la Vuelta, ce qui a provoqué tout de suite une dure bataille politique en Espagne entre le gouvernement de gauche et l'opposition de droite. Suite aux incidents d'hier après-midi et à l'annulation de cette dernière étape, eh bien le chef de l'opposition et leader du Parti populaire, Alberto Núñez Feijóo, a accusé directement Pedro Sanchez d'être l'instigateur de ces manifestations. Selon lui, le gouvernement a non seulement permis, mais encouragé l'interruption de la Vuelta, provoquant ainsi une honte internationale relayée dans le monde entier. Outre Pedro Sanchez, d'autres représentants du gouvernement central ont pris la parole ces dernières heures pour répondre au leader de l'opposition, comme le ministre de la fonction publique, Óscar López. Que le peuple de Madrid manifeste contre un génocide ne porte pas atteinte à l'image de l'Espagne. Au contraire, je le regrette pour la Vuelta, mais je le regrette encore plus pour les centaines de milliers de Palestiniens qui sont en train d'être massacrés, a-t-il déclaré.
Marie-Hélène Ballestero, en direct de Madrid. Hier soir, le gouvernement israélien a affirmé que Pedro Sanchez était une honte pour l'Espagne. Fin de citation. Tout cela alors que le secrétaire d'État américain, ministre des Affaires étrangères en quelque sorte, Marco Rubio, est en visite aujourd'hui en Israël. Il est à Jérusalem, conférence de presse commune avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Marco Rubio dit deux choses à l'instant. La première, c'est que le soutien américain à Israël dans ses objectifs à Gaza est un soutien indéfectible. Et la seconde, c'est que selon lui, le mouvement islamiste Hamas a été enhardi dans ses actions par les annonces de reconnaissance d'un État palestinien, comprenez par l'annonce faite par Emmanuel Macron il y a quelques semaines de la reconnaissance dans les prochains jours d'un État palestinien. Ce qui nous amène à l'actualité aux États-Unis et à ces tensions extrêmement fortes depuis l'assassinat la semaine dernière de Charlie Kirk, cet influenceur d'extrême droite proche de Donald Trump. Les débats se focalisent désormais autour de la personnalité de son tueur présumé, Tyler Robinson, âgé de 22 ans. Hier, le gouverneur républicain de l'Utah l'a présenté comme une personnalité de gauche. En fait, Claude Guibal, l'enquête laisse apparaître un profil plus complexe.
Dans la sphère MAGA des supporters de Donald Trump, Tyler Robinson a tout de l'idéologue radical gauchiste et antifasciste, mais les éléments progressivement révélés par l'enquête dressent, eux, un profil plus intrigant de ce jeune homme de 22 ans, issu d'une famille on ne peut plus classique de la droite américaine, petite ville de province, Washington dans l'Utah, région très chasse, pêche et nature, des loisirs réguliers dans cette famille de mormons qui se revendique républicaine et partisane de Donald Trump. L'enquête décrit un jeune homme qui s'est était renfermé depuis quelques mois. Amateur de jeux vidéo comme Call of Duty, il aurait exprimé son opposition déjà à Charlie Kirk, mais les enquêteurs tentent d'établir des connexions avec les groupes de gauche radicale locaux. Ils cherchent des messages qu'il aurait pu laisser en ligne. Ils auraient retrouvé des inscriptions sur ses munitions, comme « Eh, fasciste, prends ça !» Une autre ferait allusion à l'homosexualité. L'enquête surtout s'intéresse à la nature de sa relation, possiblement amoureuse, avec son colocataire en transition de genre, ce qui pourrait expliquer le mobile. Charlie Kirk étant un opposant à ces transitions de genre, un colocataire qui coopère pleinement avec les autorités, à la différence de Tyler Robinson.
Précision signée Claude Guibal. C'était le dimanche 30 janvier 1972, Londonderry, Irlande du Nord, des militants catholiques partisans de la réunification avec l'Irlande manifestent dans le calme quand des soldats britanniques ouvrent le feu sur la foule. Il y a 13 morts. 11 ans plus tard, le groupe U2 immortalise ce Bloody Sunday. Bonjour Gaëlle Joly.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Londres. Aujourd'hui, plus de 50 ans après ce Bloody Sunday, un ancien soldat britannique est jugé pour sa participation à ce massacre. Le procès a lieu à Belfast. Il doit répondre de 2 meurtres et de 5 tentatives de meurtre.
Oui, et comme en décembre dernier, lors de sa première comparution devant le tribunal de Belfast, l'accusé est apparu dissimulé derrière un rideau. L'ancien parachutiste plaide non coupable. Ses avocats assurent avoir relevé des incohérences dans les récits de ses camarades et ceux des civils en ce jour noir de l'histoire. Mais pour le procureur, les preuves sont accablantes. Pour les familles des victimes, c'est l'aboutissement de 53 ans de combat après un parcours semé d'embûches. Il aura fallu attendre 2010 les conclusions de la plus longue et coûteuse enquête publique de l'histoire britannique pour que que le Premier ministre de l'époque, David Cameron, présente des excuses officielles et dénonce des meurtres injustifiés et injustifiables. Le parquet nord-irlandais n'engagera des poursuites que 9 ans plus tard, poursuites abandonnées puis relancées en 2022 après un énième appel des familles de victimes. Depuis la fin du conflit nord-irlandais, seul un ancien soldat britannique a été condamné il y a 2 ans à 3 ans de prison avec sursis pour avoir tué un homme d'une balle dans le dos à un checkpoint en 1988. Il avait expliqué avoir tiré par accident car il avait les mains mouillées.
Gaëlle Joly, correspondante de France Inter à Londres. Ils aidaient à importer des produits mortels. 12 militants de la fin de vie sont jugés à partir d'aujourd'hui au tribunal correctionnel de Paris. Et parmi eux, 11 adhérents de l'association Ultime Liberté et un médecin, le docteur Bernard Senet de l'association Le Choix. Tous sont accusés d'avoir participé à un vaste trafic de substances illicites, du pentobarbital, un produit létal interdit en France et utilisé ici dans le cadre de suicides assistés. Bonjour Alice Cachaner.
Bonjour.
Vous suivez ce procès pour Inter. Alice, ce matin, des soutiens de cette association sont venus manifester devant le tribunal. Quelle est l'histoire de cette association Ultime Liberté ?
Eh bien oui, sur le parvis du palais de justice, ils sont une 60aine de militants, moyenne d'âge 70 ans. En chœur, ils reprennent des chansons, notamment l'hymne à l'amour d'Édith Piaf, aux paroles quelque peu modifiées.
C'est ma vie, je décide, quand je voudrais partir.
Décider quand partir, c'est le mot d'ordre d'Ultime Liberté. L'association a été créée en 2009 par des dissidents de l'ADMD, une autre association qui milite pour le droit à mourir dans la dignité. Ultime Liberté est considérée comme plus clivante, plus radicale, car elle prône la liberté totale de disposer de son corps et donc sa mort. Certains acheteurs du pentobarbital ne souffraient pas d'une maladie incurable, ce qu'assume Claude Uri, l'une des fondatrices d'Ultime Liberté, jugée à partir d'aujourd'hui.
Aujourd'hui, on devrait pouvoir choisir notre mort. La mort n'est pas une affaire médicale, la mort est une affaire philosophique. Juger que notre vie vaut la peine d'être vécue, c'est le seul problème philosophique, a dit Camus. Voilà. C'est vraiment qu'on nous reconnaisse le moment de dire stop.
Dire stop, se suicider en douceur, sans souffrance, c'est ce que cherchaient justement les acheteurs de cette substance mortelle interdite en France. Clément, un des adhérents de l'association, espère que ce procès permettra de faire évoluer la loi et la société.
Je ferai le parallèle avec la lutte d'il y a 50 ans pour le droit à l'avortement, qui aujourd'hui se trouve inscrit depuis la loi Veil dans la loi et maintenant dans la Constitution. S'il n'y avait pas eu les désobéissances civiles à l'époque, le fameux manifeste des 343 salopes qui disaient « oui, j'ai aidé à avorter, y compris des médecins », on en serait toujours à la situation d'il y a 50-60 ans.
Et les adhérents d'Ultime Liberté ont prévu de manifester chaque jour du procès devant le tribunal.
Merci Alice Cachaner en direct du tribunal correctionnel de Paris. Vous nous avez expliqué que cette association était une émanation de l'ADMD, l'association pour le droit à mourir dans la dignité. Comment son président Jonathan Denis regarde-t-il ce procès ?
Il faut bien comprendre que dans ce procès, semble-t-il, il y a des personnes qui étaient malades, qui se sont procurées du pentobarbital, et puis il y avait des personnes qui n'étaient pas malades. Je suis pas juge, je suis pas là pour juger la manière de fonctionner de militants d'Ultime Liberté, qui considéraient d'ailleurs que l'association pour le droit de mourir dans la dignité n'allait pas assez loin. Moi, ce que je défends avec l'association pour le droit de mourir dans la dignité, c'est une loi qui encadre, et c'est une loi qui protège les soignés et les soignants. Mais on ne peut pas découvrir aujourd'hui qu'il y a des Françaises et des Français qui commandent par Internet du pentobarbital. Et je vais vous dire, mon papa a été accompagné par un médecin clandestinement il y a 15 ans dans le cadre d'une aide active à mourir, donc illégale. Je trouve scandaleux qu'on en soit encore à devoir traîner devant les tribunaux des personnes qui accompagnent parce que la loi ne le permet toujours pas. La crainte que j'ai, c'est qu'avec des changements de Premier ministre, avec une dissolution, avec des censures à foison, eh bien on se retrouve avec une loi qui n'arrive pas au Sénat et avec une loi qui ne puisse être promulguée avant 2027. On a besoin véritablement d'avancer.
Jonathan Denis, président de l'association pour le droit à mourir dans la dignité. Il répondait au téléphone de Rémi Brancato. On connaît l'association qui, sur l'eau, vient en aide aux migrants SOS Méditerranée ou Sea-Watch, par exemple. Et bien, dans les airs, une association fait de même. C'est l'association Pilote Volontaire, une organisation française, mais qui, depuis quelques jours, doit faire sans l'un de ses avions. cloué au sol et qui a donc dû trouver un avion de remplacement. Explication, c'est le gouvernement italien qui multiplie les sanctions contre les ONG qui viennent en aide aux embarcations de migrants en mer Méditerranée. Bonjour Mathieu Bonnour.
Bonjour.
La mission de cette association, c'est survoler la mer et repérer les bateaux en difficulté et prévenir les gardes-côtes.
Plusieurs fois par mois, un pilote embarque avec 3 observateurs. Muni de jumelles, il scrute la mer à la recherche de ces embarcations de fortune. Dès que ces bateaux en détresse sont repérés, l'association prévient les gardes-côtes via des bénévoles au sol. C'est un des aspects reprochés à Pilote Volontaire, explique Jeanne Tesson, juriste au sein de l'organisation.
C'est de ne pas avoir communiqué avec les autorités italiennes par mail depuis l'avion. Et ça, c'est peut-être l'obligation la plus surréaliste puisqu'elle n'est contenue dans aucun décret-loi italien actuellement. Elle est seulement issue d'une interprétation abusive des textes.
Au total, une dizaine de faits. Un autre exemple. Et pour comprendre, il faut déjà savoir que la Méditerranée centrale est découpée en plusieurs zones de sauvetage entre l'Italie, la Libye, la Tunisie ou Malte. Les autorités italiennes jugent que Pilote Volontaire ne sollicite pas les bons pays trop souvent. Donc toutes ces amendes accumulées font grimper la note à 100 000 euros.
C'est aussi la première fois qu'une telle amende est prononcée contre une association de repérage et de sauvetage civil. En général, le maximum est autour de 10 000 euros. Et donc là, on voit une stratégie du gouvernement italien de ruiner les ONG dans des procès qui vont durer plusieurs mois, voire plusieurs années.
Une bataille juridique dans laquelle l'association va se lancer. Elle exige dès maintenant l'annulation de cette sanction et surtout le droit de pouvoir récupérer leur avion.
Merci Mathieu Bonnour. Il est devenu hier le premier Français champion du monde du 10 000 mètres, le deuxième Européen vainqueur seulement dans cette compétition et sur cette distance. Ces deux références disent tout de l'exploit réalisé par le Boulonnais Jimmy Gressier à Tokyo hier après-midi. Alors, cette victoire s'explique évidemment par la qualité de ce coureur qui ne sort pas de nulle part, qui faisait partie des favoris au départ de la course, une course extrêmement tactique dans laquelle il a pu faire parler également sa vitesse, son finish. Bonjour Emma Sarango.
Bonjour.
Mais il y a d'autres explications et il en a parlé lui-même, Jimmy Gressier, notamment l'accélération ces dernières années sur cette distance de la lutte antidopage.
Oui, c'est l'une des toutes premières choses qu'a dite Jimmy Gressier après avoir passé la ligne d'arrivée.
Toutes ces organisations antidopage font un travail monstre et ça permet de remettre le niveau un peu plus à plat que d'avoir des extraterrestres intouchables devant, et je pense que c'est grâce à eux aussi qu'aujourd'hui je suis champion du monde, c'est qu'ils font un travail énorme et je les remercie.
Alors pour comprendre ce que dit Jimmy Gressier, on va prendre l'exemple du Kenya. Ces dernières années, l'agence antidopage nationale a été accusée de ne pas être assez rigoureuse dans ses contrôles, d'où des menaces de sanctions d'exclusion pour les athlètes kényans, comme il y en a eu pour les Russes. Voilà qui a fait réagir Nairobi avec en 2023 un investissement de 25 millions de dollars dans la lutte antidopage qui commence à porter ses fruits. Depuis le début de l'année, 19 athlètes kényans ont été sanctionnés et en juin dernier, la toute première suspension à vie a été prononcée. Sont essentiellement concernés des coureurs de fond, c'est-à-dire 5000 mètres et plus, donc la catégorie de Jimmy Gressier. Et l'une de ces décisions concerne d'ailleurs le kényan Kibet Koech, 5e des JO de Paris. Si sa suspension était confirmée, Gressier gagnerait une place au classement olympique, 12e au lieu de 13e. Donc oui, il y a eu des progrès, mais les instances mondiales ne sont pas totalement satisfaites. Il y a encore 3 jours, l'Agence mondiale antidopage a proféré de nouvelles menaces. Certaines règles internationales ne sont toujours pas respectées. S'il n'y a pas de progrès d'ici fin septembre, dit l'agence, alors le Kenya ne pourra plus accueillir aucune compétition et aucun de ses représentants ne pourra plus siéger aux instances.
Merci Emma Sarango. Prochain rendez-vous dimanche pour Jimmy Gressier pour le 5000 mètres, toujours dans ces championnats du monde d'athlétisme à Tokyo où l'on suit aujourd'hui nos perchistes français. Ils sont 3. Le grand favori est suédois, Mondo Duplantis, et la compétition est en train de débuter pour cette finale de la perche, 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Calac. Puis à partir de 13h30, les ingérences étrangères, elles sont de plus en plus visibles dans notre pays. Sont-elles de plus en plus nombreuses, si vous l'avez constaté, par exemple sur les réseaux sociaux, ou si vous avez des questions, j'attends vos appels. 01 45 24 7000. 13h45, notre feuilleton sur les traces du footballeur du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, l'un des favoris pour le prochain Ballon d'Or. Vous le savez, Frédéric Pommier, ce sera lundi prochain et nous serons à Évreux, dans sa ville d'origine, dans un quart d'heure maintenant. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Cécilia Carbona et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Jérôme.
Cécilia, vous nous emmenez à Besançon.
Dans son cœur historique, la cité du Doubs célèbre cette semaine la musique classique avec son festival international. Et la semaine prochaine, elle va dénicher des talents grâce à son concours de jeunes chefs d'orchestre.
Et avec vous Frédéric, un acteur.
Un acteur qu'on aime beaucoup, il s'agit de Bernard Campan, de retour sur les planches cette semaine dans la pièce Un pas de côté. Et avec lui, c'est un tube du groupe Ten CC que nous écouterons, une chanson qui lui rappelle une fille dont il était très amoureux quand il était au lycée.
Très bien, merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Le soir, sur France Inter, 2 heures d'infos internationales et interactives.
Le 18-20, Fabienne Sintès.
À 18h20, un jour dans le monde, le tour de la planète. En 40 minutes avec des experts, des témoins, nos correspondants et la rédaction internationale de Radio France.
Bien sûr que je soutiens un cessez-le-feu, mais la capitulation de l'Ukraine, certainement pas.
À 19h20, vous intervenez, vos questions à nos invités autour d'un thème qui vous concerne, c'est le téléphone sonne.
Le 18-20.
C'est du lundi au vendredi, à 18h sur Inter.
Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque? Non? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel? Prise de poids rapide? Pieds et chevilles gonflés? Fatigue excessive? Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie. France Inter, partenaire de Loved, le nouvel album de Parcells. À la croisée des Beach Boys et des Daft Punk. Parcells, en concert le 8 octobre à l'Accor Arena Paris. De Parcells, un album France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec les cafés Malongo, torréfacteurs engagés depuis 30 ans dans le commerce équitable. Les petits producteurs font les grands cafés sur malongo.com.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Des nuages, un peu de pluie et du vent au programme.
Oui, du sud-ouest à l'Alsace, on retrouve notre perturbation avec beaucoup de nuages, un petit peu de pluie, du vent. Entre le nord-ouest et les frontières du nord, du vent également, hein, surtout vers la Manche, jusqu'à 70 à 90 km à l'heure. Des éclaircies souvent belles, mais plus timides de la Normandie au Hauts-de-France avec des averses. De la Méditerranée aux Alpes, là c'est du soleil avec un peu plus de nuages en montagne, une averse possible sur le nord des Alpes et du vent entre le Var et la Corse. Et puis côté thermomètre, ça baisse à l'ouest, mais ça monte un petit peu à l'est, alors 18 à 21 degrés sur une bonne partie nord, jusqu'à 23 en Alsace, 22 à 25 sur le sud-ouest, 28 à 31 degrés encore de la Méditerranée à Rhône-Alpes. Demain, des nuages au nord, de rares averses vers la Manche et les frontières du nord, plus de soleil en allant vers le sud et quelques degrés de moins, mais ça va remonter mercredi.
Merci Elodie Calac, Météo France.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
Il y a les opérations les plus visibles, ces têtes de cochon déposées devant des mosquées la semaine dernière en Ile-de-France ou encore ces mains rouges taguées il y a quelques mois sur le mémorial de la Shoah. À Paris, il y a les campagnes d'influence menées sur les réseaux sociaux. Et puis il y a la corruption de journalistes ou d'hommes et de femmes politiques. Tout cela englobe ce qu'on appelle l'influence, l'ingérence étrangère. Et si l'on en parle aujourd'hui, c'est que la France est de plus en plus visée. La justice enquête sur 9 cas possibles d'ingérence depuis 2023, a précisé vendredi la procureure de Paris. Menace prise au sérieux à tel point qu'une loi pour lutter contre ces ingérences a été promulguée l'an dernier. 01 45 24 7000. Pour vos questions, vous passez également via l'application Radio France. Je vous présente nos deux invités. Constance Le Grip, bonjour.
Bonjour.
Députée Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine. Merci d'être avec nous. Christine Dugoin-Clément également, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur associé à la chaire risque de l'IAE Paris 1 Panthéon Sorbonne. Constance Le Grip, quel est l'effet recherché par ces opérations? Je parle des opérations les plus visibles, celles dont j'ai parlé au début, la dernière en date. Ce sont ces têtes de cochon qui ont été déposées la semaine dernière devant des mosquées d'Île-de-France. Qu'est-ce qu'on cherche dans ces cas-là?
Alors, la visée de ces opérations particulièrement spectaculaires qui ressortent, vous avez parfaitement raison, de la catégorie des ingérences étrangères, donc des opérations malveillantes, toxiques, sournoises, elle est de déstabiliser, d'entretenir la confusion, de conflictualiser, pourquoi pas de dresser les citoyens français les uns contre les autres, enfin de semer au sein de notre société, dans notre espace démocratique et médiatique, les ferments de la division, de la désunion et pourquoi pas de l'affrontement.
Ça fonctionne ?
Ça peut fonctionner quand ça se conjugue à beaucoup d'autres opérations d'ingérence. À soi seul, effectivement, comme les cercueils qu'on avait retrouvés sous la Tour Eiffel ou les jets de peinture verte contre certains sites de la communauté juive, à soi seul, ça ne peut pas totalement déstabiliser, totalement désagréger la société française. Mais on voit bien que ça heurte, ça crispe, ça met en colère, ça peut provoquer de la division, de la confusion, et c'est surtout quand c'est conjugué à toutes les autres formes d'ingérence que vous avez également évoquées, qui sont de plus en plus nombreuses, abondantes, puissantes, la manipulation de l'information, la désinformation, les fake news, et beaucoup, beaucoup d'autres formes, encore une fois, d'ingérence malveillante qui s'en prennent à notre système démocratique.
Pour rester sur ces opérations les plus visibles, elles sont de plus en plus nombreuses, 9 depuis 2023, a dit la procureure de Paris vendredi. Ça, c'est des choses qu'on ne voyait pas avant, ce type de manipulation-là.
On ne les voyait pas, effectivement. Il y avait aussi eu l'affaire des punaises de lit, entre guillemets, qui avait été exagérément gonflée. Il y a manifestement maintenant toute une série de gens, des réseaux, des gens à la limite de la délinquance, je dirais, classique, qui n'hésitent pas, donc des malfrats, qui n'hésitent pas pour quelques dizaines de milliers, quelques milliers de dollars ou alors une autre monnaie, à venir se livrer à ce genre d'actes. Parce qu'il y a maintenant un phénomène, effectivement, de très grande confusion et une permanence de la part d'un certain nombre de puissances étrangères, de la part d'un certain nombre de réseaux liés à des entités étrangères, de pouvoir tout le temps semer le doute, entretenir et donc monter des opérations, y compris ce genre d'opérations assez lamentables, il faut bien le dire, souvent abject, s'agissant de ce qui a été déposé devant les mosquées, mais qui, se multipliant, entretiennent un climat.
Christine Dugoin-Clément, derrière tous les faits que j'ai rappelés à l'instant, à chaque fois on trouve des États ou en tout cas des influences étrangères, c'est avéré ?
Alors, la question de l'attribution est un véritable sujet et elle demande d'ailleurs d'être un petit peu prudent ou tout du moins un petit peu patient, puisque par nature, comme on va travailler sur notamment le volet numérique, eh bien, ça demande un temps d'enquête et puis on a toujours cette espèce de petit moment, de petit flou. Quand on va être sur des actions qui sont dans le monde physique, vous avez parlé des têtes de porc récemment, ça demande d'avoir une enquête puisqu'on a de plus en plus l'usage de ce qu'on appelle des agents jetables, donc qui sont des gens embauchés pour des sommes extrêmement modiques, qui ne sont pas forcément de la nationalité des commanditaires, qui ne savent pas forcément exactement quel est le commanditaire réel de ce pourquoi ils sont payés. Donc ça demande tout un travail d'enquête qui demande un petit peu de temps. Et ça, c'est ce que l'on voit de plus en plus. Ce qui est sûr.
On a une question juste. Je vous interromps, Christine Dugoin-Clément, parce qu'on a une question de Marc à ce sujet qui nous appelle de Marseille. Bonjour Marc.
Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir comment justement sont menées ces enquêtes, notamment concernant les têtes de cochon. Là, récemment, on a appris assez vite que c'était une ingérence étrangère et quelles sont les suites judiciaires pour ça.
Christine Dugoin-Clément, je vous laisse la parole. Je voulais juste faire cette incise avec Marc.
Je vous en prie. Merci pour cette question. On est dans un travail, alors tout dépend. Pour le volet physique, on va être dans un travail d'enquête de police qui est assez classique. On va essayer de remonter les témoignages, remonter les pistes, etc. Et en fonction, on va qualifier les actions pour pouvoir les traiter sur le volet juridique et pénal. Quand on est dans le monde numérique et sur la reprise, on va avoir tout un travail d'enquête qui va notamment demander des compétences techniques pour être en capacité de traquer les marques, de traquer et de remonter jusqu'à l'origine des sites. Donc ça, c'est différentes agences peuvent le faire. L'agence Viginum travaille notamment là-dessus. Et ils vont aussi regarder si on a une action, artificielle pour rendre virale ou pour grossir la popularité d'un contenu autrement que naturellement, puisqu'un contenu peut devenir très populaire de manière spontanée. Ça arrive aussi.
On va y venir,
le travail, c'est justement d'être sur cette définition entre oui, c'est naturel, les gens sont intéressés, ce qui est très juste, ou ça n'est pas naturel, on vous vous fait croire que ça vient de vous, alors que pas du tout.
On va venir sur les réseaux sociaux dans un instant avec Michel qui nous appelle de Paris, mais un dernier mot, Christine Dugoin-Clément. Moi, je suis quand même frappée par l'aspect un peu amateur de ces dernières tentatives. On arrive assez facilement et assez rapidement à savoir que, eh bien, en l'occurrence, pour ce qui est des têtes de cochon, elles ont été achetées par des étrangers qui ont quitté le pays. Donc on voit assez vite qu'en fait, il s'agit d'une manipulation étrangère.
Pour le coup, oui, mais elle pourrait être recapitalisée de différentes façons. Il ne faut pas oublier que quand vous avez une action qui est menée, elle peut avoir plusieurs cibles. En fait, l'opinion publique du pays qui est ciblée, au cas particulier l'opinion publique française, et puis vous pouvez avoir une petite portion de personnes que ça va toucher particulièrement et qui vont dire oui, là, c'est peut-être pas le cas, mais néanmoins, on a cet élément-là. Donc, on va essayer d'activer quand même des polarisations, des clivages, et de faire en sorte que les gens ne se parlent plus.
Autrement dit, même si au bout de quelques jours ou quelques semaines, on finit par donner l'information qu'en fait, c'était bien une manipulation, une ingérence étrangère, il y a quand même un effet qui reste.
Il y a ça, et puis il y a deux autres effets. Le premier, c'est d'avoir une capacité de projection de puissance et de défi, qui est de dire, moi, j'ai pas peur d'aller sur votre territoire et de faire les choses. Et ça, ça donne un petit peu, si vous voulez, un écho, une aura de puissance. Et le troisième, c'est que parfois, c'est recapitalisé sur les territoires nationaux on va reprendre uniquement l'élément qui va bien. Et par nature, ça peut être le cas. La Russie l'a fait dans d'autres cas, notamment dans le cas de l'opération Doppelganger, en reprenant de faux articles de presse qui avaient usurpé l'identité de grands médias français en disant, regardez, même les Français disent que l'Ukraine n'est pas fiable, etc. Donc vous pouvez le capitaliser sur trois niveaux différents.
On a parlé des réseaux sociaux, je voudrais qu'on accueille Michel. Bonjour Michel.
Bonjour.
Vous nous appelez de Paris, nous vous écoutons.
Oui, pour résumer, je voulais attirer l'attention sur la responsabilité des éditeurs français. Moi, je suis sur Facebook, plan, etc. Bon, et il y a certains éditeurs qui ouvrent leurs espaces, leurs pages, etc. à des commentaires et ils ne modèrent pas derrière. Par exemple, TV5 Monde, RFI, donc ça, c'est des plateformes où il y a les trolls africains qui tombent. Des fois, c'est sur des sites qui parlent de l'actualité en Ukraine, où là, c'est carrément les Russes. Signaler à Facebook, ça sert à rien, parce que truc mensonger, bref, ça marche pas. Et donc, il faudrait déjà que les éditeurs fassent le ménage et qu'on ait un peu comme pour les drones, des moyens de désinguer ou de signaler ces trolls. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que je crois qu'il faut pas leur répondre, ça leur donne plus de visibilité. Facebook, ça sert à rien. On est un peu démunis et un peu... Voilà, et ça marche, parce que vous regardez les centaines de commentaires, etc. Bref, merci. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut faire?
Merci Michel. Constance Le Grip vous répond, et peut-être que dit la nouvelle loi qui a été promulguée l'an dernier, est-ce qu'elle dit des choses sur les plateformes?
Alors la loi qui a été promulguée, que nous avions portée, Sacha Houllier et moi-même, n'est pas ciblée sur la responsabilité des plateformes. Il s'agit d'un sujet énorme, comme pointe votre auditeur, la responsabilité des plateformes sur toute une série de sujets, à commencer par celui de la lutte contre la désinformation et les fake news. Et ces sujets-là sont du ressort de la régulation européenne à l'échelle de l'Union européenne. C'est extrêmement difficile, effectivement. Bien sûr qu'il faut renforcer le travail de modération, et on sait que certains réseaux, certaines plateformes, certaines chaînes sont nuls, il faut le dire, sont totalement en dessous de tout.
Quand
en matière
de
modération.
C'est extrêmement difficile, pardonnez-moi, Constance Le Grip, moi j'entends on ne peut rien faire.
Non, je n'entends pas dire qu'on ne peut rien faire, par définition, jamais de résignation, jamais de fatalisme, mais il faut clairement arriver à faire la part des choses et ne pas tomber dans, je dirais, la censure, par exemple. Et on a le droit d'avoir un certain nombre d'opinions, relayées par contre des mensonges, pour peu que l'on puisse montrer qu'il s'agit de mensonges, de manipulations, de choses totalement fake, est un délit, n'est pas possible. Mais la marge d'appréciation est assez difficile. Et d'ailleurs, tout citoyen peut, un peu à l'insu de son plein gré, s'il est actif sur une plateforme, se retrouver tout d'un coup en situation d'avoir relayé, d'avoir cru, et d'avoir ensuite relayé quelque chose qui est fabriqué ailleurs, qui est fabriqué en Russie, en Corée du Nord, en Algérie ou en Iran. Donc, il y a des choses à faire. Nous avons une agence d'État, Madame Dugoin-Clément y faisait allusion, Viginum, qui lutte contre les ingérences numériques étrangères. Donc, il sait détecter les campagnes de fausses informations qui, donc, déconnectent, va ensuite chercher celles et ceux qui en sont l'auteur et déconnecte ces campagnes. C'est une question également de vigilance citoyenne. Hein, et clairement, à chaque occasion qui m'est donnée de prendre la parole sur ce sujet, j'appelle à ce que nous haussions la garde, que nous soyons collectivement citoyens, médias, enseignants, pourquoi pas, hommes et femmes politiques, élus, partout, en situation de vigilance, d'alerte citoyenne permanente.
Stéphane nous appelle de Ville-d'Avray. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Sur la réponse aussi, je crois, c'est là-dessus que vous vouliez nous interpeller.
Oui, moi j'avais une question sur le fait qu'en fait, c'est toutes ces techniques de guerre hybride, parce que c'est en fait de ça dont on parle, hein, ne peuvent pas être aussi susciter plus d'action de notre part, de la part des sociétés démocratiques, dans le sens où pourquoi est-ce qu'on ne contre-attaque pas quand on a en face de nous des pays dont les populations sont sous l'emprise de la propagande depuis des années et des années, et d'un moment d'essayer d'ouvrir les yeux des Russes, des Coréens du Nord ou autres sur la réalité de leur régime, et ça pourrait être en faisant nos propre troll et en faisant aussi, nous, de la guerre hybride.
Merci pour cette question. Stéphane, Constance Le Grip, est-ce qu'il y a des gens qui font ça chez
Alors,
nous? Est-ce qu'on fait de la guerre hybride ou est-ce qu'on peut contre-attaquer avec des gens qui seraient payés pour faire ça?
Nous sommes parfaitement conscients que c'est une guerre hybride, une guerre informationnelle avec de multiples formes qui nous est menée, qui est menée contre toutes les démocraties européennes et à commencer par la nôtre. Nous n'avons pas, nous, de ferme à troll, de robots, de vrais faux comptes qui pourchassent toutes les paroles et qui pourchassent les autres comptes.
Quand l'armée française a été accusé de massacre, par exemple, en Afrique de l'Ouest par des trolls russes, la réponse a été faible. Et on a perdu la bataille de l'opinion dans les pays d'Afrique de l'Ouest.
Il y a eu, parfaitement, ça remonte à maintenant, il y a quelques années.
Exactement.
Il y a eu effectivement peut-être un retard à l'allumage, mais qui est maintenant pleinement analysé, pleinement décrypté. Et nous avons maintenant, de la part du ministère des Affaires étrangères et du ministère des Armées, notamment, mais pas que, une véritable stratégie, je dirais pas de guerre ou de contre-attaque, mais une stratégie beaucoup plus proactive. Nous savons bien qu'il y a des narratifs particulièrement destructeurs, particulièrement nocifs, nuisibles, qui sont mis en œuvre par un certain nombre d'entités étrangères et de puissances étrangères qui ne nous veulent pas que du bien, c'est évident. Et donc, nous élaborons nous-mêmes, à travers un certain nombre de canaux, nous élaborons maintenant. C'est une stratégie relativement récente, de manière proactive, des récits alternatifs, des récits narratifs pour rectifier et nous aussi aller porter ailleurs ce que nous avons à dire sur les réalités du monde et les intérêts et la défense des intérêts français.
Merci à toutes les deux, Constance Le Grip et Christine Dugoin-Clément. Je remercie aussi tous les auditeurs qui nous ont appelés aujourd'hui, 13h46 sur Inter. Une semaine dans leur vie, c'est notre feuilleton à la découverte toute cette semaine de celui qui sera peut-être lundi prochain élu meilleur footballeur du monde. Ousmane Dembélé, 28 ans, attaquant du Paris Saint-Germain, est l'un des grands favoris du Ballon d'Or. Comment le gamin d'Evreux est-il arrivé au sommet? Premier épisode dans cette ville normande, précisément là où tout a débuté, dans le quartier sensible de la Madeleine.
Là, au dernier étage, c'est ici que Ousmane il habitait, juste à côté du carreau rouge. Et moi, j'habitais au premier étage. Et c'est ici qu'on s'est rencontrés à l'âge de 5 ans. C'est une barre d'immeuble, c'est ce fameux mur où Ousmane avait l'habitude de tirer du pied droit et du pied gauche. Alors, moi, je suis Mustapha Diatta et je suis l'ami d'enfance à Ousmane. J'ai grandi avec lui et depuis petit, on s'est pas lâché. Maintenant, je suis dans son entourage. Et je suis Ousmane à travers ses aventures exceptionnelles. J'ai cette anecdote où il pleut et moi, de ma fenêtre de chez moi, je vois Ousmane sous des torrents tirés du pied gauche et du pied droit contre ce mur. Et je comprends très rapidement que c'est pas un simple jeu, le football, et qu'il veut vraiment faire son métier. Nous, on jouait au football et lui, il faisait de la magie. C'était différent, on ne faisait pas la même chose avec un ballon, c'était pas pareil. Ah, c'était très très clair pour lui, hein. Il allait jouer au football. Je ne l'ai jamais entendu dire qu'il voulait travailler pour la NASA ou pas du tout. Lui, c'est le football, un point, c'est tout. Il a été élevé par sa maman, qui est une femme par rapport, comme toutes les mamans dans les quartiers, par rapport aux sorties, etc. Faire en sorte que qu'ils ne soient pas dehors jusqu'à très très tard le soir, par exemple. C'est l'aîné. L'aîné d'une fratrie, ils sont quatre, cinq avec Ousmane. Elle a beaucoup laissé Ousmane, laissé cette partie-là à Ousmane. Elle savait que c'était son plaisir, elle l'a laissé avec son plaisir. Chez les Dembélé, ils sont pas mal, hein. Ils sont pas mal à jouer au football, à avoir tenté de jouer au haut niveau en tout cas. Et,
quand vous dites chez les Dembélé, chez frères et sœurs?
Oui, chez ses oncles, etc. Ils étaient doués. Ils avaient quelque chose pour le football.
Dans la vie, ça va vite, comme Ousmane Dembélé.
Alors, je connais Ousmane depuis qu'il est tout petit. Je pense qu'il devait avoir 5-6 ans, je pense. Younes Oubrahim, voilà, je suis éducateur au club. Moi, je suis un petit peu le grand frère parmi tous les grands frères du quartier. Et puis, lui, c'était le petit qui jouait dehors pendant que nous, on était là. Et il se trimballait systématiquement avec son ballon de foot. C'est-à-dire que même quand, c'est des souvenirs, hein, quand sa mère l'envoyait faire des petites courses chez l'épicier du coin de la rue, il n'y allait pas sans son ballon. Donc, il avait tout le temps son petit ballon à dribbler les arbres, à dribbler les bancs, à dribbler tout ce qu'il pouvait utiliser comme obstacle. Voilà, c'était un dribble. Et puis, il avait déjà des dribbles, la spéciale d'Embouz, les crochets, les feintes de frappe. Il l'avait déjà depuis tout petit, donc il a pu le faire avec le temps. Et quand il était avec ses amis, tout le temps à chambrer, à rigoler. Il avait un peu la tête dans les nuages, un peu rêveur. Et par contre, quand il jouait, c'était une autre personne, très compétiteur. Il pouvait être caractériel. C'est ce que lui nous a montré depuis tout petit. Et donc, quand on le voit aujourd'hui, on n'est pas étonné. Il n'y a pas grand-chose qui a changé.
Emma Sarango pour ce feuilleton sur les traces d'Ousmane Dembélé. Demain, nous serons à Rennes.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France, le lundi à 13h50. Cécilia Arbona nous parle d'un lieu qui fait l'actualité. Aujourd'hui, Cécilia, nous sommes à Besançon, dans deux salles de spectacle de la ville.
Au théâtre Ledoux, créé au XVIIIe siècle par l'architecte de Louis XV, et au Cursal, juste à côté, une ancienne adresse de divertissement et de fête pour curistes. Les artistes, la semaine prochaine, se produiront de dos. Et oui, dos au public, normal, ces vedettes sont des chefs d'orchestre en lice pour le concours international organisé tous les 2 ans. Chaque candidat a moins de 35 ans et il devra diriger 3 formations. L'orchestre symphonique Victor Hugo de Besançon, celui de Dijon-Bourgogne et le philharmonique de la radio allemande de Sarrebruck.
Et comme dans une compétition sportive, il y a les éliminatoires, les demi-finales et la finale.
Ce qui fait dire à Jean-Michel Maté, le directeur du Festival de musique classique, qui est aussi directeur du concours, à Besançon, ce sont les Jeux Olympiques des partitions. Alors, à quoi reconnaît-on justement un bon chef d'orchestre, selon lui ? Eh bien, c'est d'abord un excellent musicien. Il maîtrise plusieurs instruments, il a du charisme, de l'autorité, de la sensibilité. L'important, c'est une technique solide combinée à une émotion communicative. Le pire, précise-t-il, c'est de s'ennuyer pendant un concert. Il faut déclencher les frissons.
Comment ont été sélectionnés les candidats ?
2 critères, l'équité et le live, le direct. Pas de captation vidéo, pas de lien à télécharger pour son dossier d'inscription. Le concours de Besançon est le seul au monde qui va vers les artistes. Au printemps dernier, 2 pianistes et 2 membres du jury se sont rendus à Paris, Berlin, Montréal, Pékin. 300 postulants ont été auditionnés. Et cet engouement, il est né grâce au parcours incroyable du lauréat 1959, le chef d'orchestre japonais Seiji Ozawa, décédé l'année dernière, premier prix en Franche-Comté à l'âge de 24 ans. En Asie, ils sont nombreux à vouloir suivre ses traces. Sur les 20 candidats en lice cette année, 5 sont chinois. Alors qui sera la baguette en finale pour la danse des chevaliers du Roméo et Juliette de Sergueï Prokofiev, dont voici un extrait.
Et qu'est-ce qu'on gagne ?
Eh bien, 12 000 euros déjà, une montre LIP fabriquée sur place dans la capitale de l'horlogerie française et un accompagnement de carrière de 3 mois. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça évite aux vainqueurs de prendre la grosse tête, de faire des choix hasardeux. Jean-Michel Mathé a donc prévu une sorte de chaperon pour le protéger. Les enjeux financiers sont, paraît-il, importants. Hein. Des agents de musiciens sont même attendus la semaine prochaine pour tenter de faire signer le chef qui sera élu sous les yeux du public, car c'est aussi la promesse du concours, l'accès à la musique classique pour tous, entre 10 et 52 euros par concert. Première note lundi prochain avec une pièce de Stravinsky. En attendant la compétition, les concerts ont déjà démarré dans le centre-ville de Bezac depuis vendredi. Une pensée d'ailleurs à nos amis de Ici Besançon, partenaire de la 70e édition du festival.
Et on vous donnera évidemment le nom du lauréat ou de la lauréate lorsqu'il aura été désigné. Merci Cécilia Arbona de C'est la France. Ah, c'est une chanson, on va poursuivre en musique avec vous Frédéric Pommier et avec votre invité, le comédien Bernard Campan.
Il sera dans quelques jours à l'affiche du Théâtre de la Renaissance à Paris dans Un pas de côté. Pièce écrite et mise en scène par Anne Giafferi. Et c'est un titre du groupe anglais 10cc que Bernard Campan a souhaité que l'on écoute. Un tube, I'm Not In Love, qui le ramène à une soirée de ses années lycée.
C'est ma première boom, comme on appelait ça à l'époque, où j'étais très amoureux d'une fille de mon âge qui était dans ma classe. Et en fait, sur la chanson, j'ai dansé mon slow avec cette jeune fille. Ça reste encore une émotion très, très forte.
Elle s'appelait comment ?
Son prénom, c'était Catherine. Voilà. Je me souviens de plusieurs choses. D'abord, que je n'avais pas analysé, c'est-à-dire qu'elle n'était pas collée à moi. Et en fait, j'aurais dû me douter qu'elle n'en avait pas très envie de ce slow, mais moi, je ne m'en rendais pas trop compte et je posais mes mains sur ses épaules ou sur ses hanches. Oui, je ne sais plus bien, mais en tout cas, j'avais le visage dans ses cheveux, elle avait une grande crinière. Et à la fin du slow, sa façon qu'elle a eu de me quitter, j'ai senti effectivement qu'elle ne ressentait pas pour moi ce que je ressentais pour elle.
Qu'est-ce qui vous plaisait chez elle ?
Je trouvais qu'elle avait un visage fascinant, puis des grands cheveux frisés et bourriffés, peut-être qui me rappelaient les cheveux de ma mère à une époque, je ne sais pas. Je ne sais même plus si j'ai fini par lui faire une déclaration. Si, je crois que je lui ai écrit un mot, une lettre où je me suis déclaré. Et en fait, elle me l'a presque jeté à la figure. Ça s'est terminé très mal, cette histoire. I'm not in love, so don't forget it. It's just a silly phase I'm going through.
C'est il y a 50 ans exactement qu'est sortie cette chanson, Frédéric.
En 1975.
Et oui.
À l'époque, Bernard Campan avait 17 ans.
C'est une chanson, moi, qui m'a fasciné aussi. Je pense l'avoir découverte pendant ce slow, mais je l'ai réécoutée souvent par la suite. C'est ces chœurs qui n'en finissent pas, quoi. Be quiet. J'adorais cette chanson.
Et puis, il y a ce texte. Ce garçon qui dit « Je ne suis pas amoureux de toi ».
C'est vrai, en plus, oui, je n'ai même pas fait le rapprochement.
Pour dire l'inverse.
Ben oui.
Le chanteur dit qu'il a écrit ce texte parce que sa femme lui reprochait de ne pas lui dire assez « je t'aime ».
Ah, d'accord.
Ça fait plus de 35 ans que vous êtes mariés. Vous dites souvent « je t'aime » ?
Je suis un peu avare en « je t'aime ». C'est pas de la pudeur, je ne sais pas pourquoi. Parfois, je me prive de dire « je t'aime » à la personne que j'aime.
Elle vous l'a déjà reproché ?
Non, pas vraiment, parce que je lui témoigne de mon amour, mais je ne suis pas très expansif sur les compliments, comme elle est belle, comme elle est bien habillée, ça, je ne sais pas trop faire, ça, ces choses-là. Je ne suis pas très romantique, finalement.
Vous faites des cadeaux ?
Oh, je vais être minable. Non, très peu. Oh putain. Je suis très très mauvais pour ça aussi.
Et est-ce qu'il vous arrive encore de danser ensemble ?
Non. Non. Et pourtant, il y a quelque chose d'autre qui s'est développé, qui est cette véritable complicité. Par exemple, on a beaucoup de fou rire ensemble, on a beaucoup de tendresse, une compréhension immédiate. Et puis, elle me soutient, je la soutiens, elle me connaît. Juste à travers un regard, on peut être une aide l'un pour l'autre. Ça, c'est inestimable.
Est-ce que de parler de cette chanson, ça peut vous avoir donné envie de la mettre bientôt et de danser avec elle ?
Allez, c'est plus que l'envie, non, je me dis tiens, je vais le faire. Voilà, moi il me faut des réveils comme ça. On va partir dans un fou rire, mais on le fera.
I'm not in love. 10CC, c'était donc Frédéric, le choix de Bernard Campan.
Bernard Campan, que vous pourrez retrouver à partir de jeudi au Théâtre de la Renaissance à Paris, dans la pièce Un pas de côté, aux côtés d'Isabelle Carré.
Merci Frédéric, et à demain, à suivre le fil de l'histoire. Stéphanie Duncan, 1979, Khomeini a-t-il volé la révolution iranienne ?